Et nous allons aborder ce matin un autre sujet, celui qui est intitulé « Balaam et les oints de Dieu ». Balaam et les oints de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible au livre des Nombres et au chapitre 22. Nous lirons les 14 premiers versets. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » L'histoire de Balaam que nous allons trouver dans les chapitres 22, 23, 24, et dans quelques passages aussi, est à la fois énigmatique et excessivement grave. Pourquoi cette histoire s'intercale-t-elle dans l'histoire du peuple d'Israël et de sa mise en place, nous le verrons, bien sûr, dans le cours de notre étude. Ce n'est pas la peine de le dire tout d'abord, nous nous en rendrons compte nous-mêmes. Rappelons d'abord le contenu de cette histoire en le résumant. Le peuple de Moab et son roi Balak sont très effrayés de l'avance qu'ils apprennent du peuple d'Israël. Même, ils l'ont aperçu dans le lointain. L'avance vers le territoire, précisément, de Moab. C'est une grande multitude qui progresse dans une direction qui passe à travers le territoire de Moab. Or, cette multitude vient de battre un voisin, un grand voisin, Sion, le roi des Amoréens, lequel avait refusé passage à travers son pays. Et dans le chapitre précédent, nous voyons que Israël, devant ce refus, l'a combattu, lui a pris son territoire, ses villes, et a mis le roi Sion à mort. Israël avait également battu un autre roi, le roi de Bazan, appelé Og. C'est d'ailleurs de ce roi qu'est venue cette histoire de l'ogre que l'on racontait autrefois aux petits-enfants. Il a battu le roi Og et s'était emparé de son pays. Moab et son roi Balak ont donc bien des raisons de s'effrayer. Ne comptant pas sur la force guerrière de son peuple, Balak pense à un tout autre moyen pour battre Israël, à un moyen surnaturel. Il connaît la réputation de Balaam, fils de Béor. Cette réputation s'est donc répandue partout, qui demeure à Pétor sur l'Euphrate. Et il décide de lui envoyer des messagers pour l'inviter à venir afin de maudire le peuple d'Israël, pensant qu'alors il lui serait facile de le dominer et de le vaincre. Malgré l'interdiction de Dieu que nous verrons, et cédant à un second appel de Balak, Balaam, appâté par le gain, finit par se mettre en route. Arrivé sur place, la puissance de Dieu s'empare de lui, et au lieu de maudire Israël, il se voit obligé de le bénir. Ne pouvant que bénir Israël par ses paroles, Balaam montrera la perversion de son cœur en donnant aux ennemis d'Israël un conseil des plus perfides dont le souvenir demeurera. Dans l'Écriture, on le retrouve à la fin du Nouveau Testament. Ce conseil étant celui de séduire les fils d'Israël par les filles de Moab pour précipiter Israël, les fils d'Israël, dans l'idolâtrie et dans l'impureté. Ainsi, pense-t-il, ses fils verront la bénédiction de Dieu s'éloigner d'eux et ils tomberont sous le coup de la colère de Dieu. Moi, je ne peux pas les maudire, mais je vais m'arranger pour que ce soit leur propre Dieu qui les maudisse. Voilà tout simplement, n'est-ce pas, le calcul de cet homme. Mais Balaam mourra par l'épée. Il sera frappé par l'épée par le peuple d'Israël lui-même. Nous verrons apparaître peu à peu, au fil des versets, les différents traits qui caractérisent Balaam, personnage en lequel se lit une contradiction. Est-il ou non véritablement un prophète de Dieu? C'est étonnant de voir que des gens l'ont considéré comme tel. Je vous dis, il y a des moments où les bras vous en tombent. Bon. Alors, méfiez-vous, je profite encore de cela pour vous le dire, méfiez-vous des écrits, méfiez-vous même de ce qu'on peut vous dire, et gardez votre discernement en vous servant de l'écriture. Ce n'est absolument pas un prophète de Dieu, même si, à certains moments, et nous allons le voir, il présente les aptitudes, l'inspiration, toutes les intuitions, une certaine disposition en lui qui sont bien celles d'un prophète d'Israël. Il n'est pas un prophète d'Israël, il ne porte pas d'ailleurs dans l'écriture l'une ou l'autre des deux désignations qui conviennent au prophète, c'est-à-dire Nabi, en hébreu, qui veut dire prophète, ou Chosé, qui veut dire voyant, mais il porte dans l'hébreu la désignation de Kozem, qui veut dire un devin. Conséquence, c'est net, n'est-ce pas? Alors, je ne vois pas pourquoi on a voulu vraiment, n'est-ce pas, faire de Balaam un prophète qui se serait égaré. Et nous allons voir commencer la méditation de cette première partie du chapitre 22 que nous avons lu. Disons d'abord que Balak signifie ravageur. Vous savez que les noms ont un sens, quand on peut le connaître, ce sens, il est assez intéressant de le noter. Il est fils de Tsippor, qui signifie, lui, oiseau. Balak, le ravageur, est fils de Tsippor, oiseau. C'est un oiseau ravageur, ce Balak. Il a des intentions méchantes contre le peuple de Dieu. Et il n'y a rien de tel, rien de pire que cela. Dieu ne peut pas supporter ça. Et vous comprenez que maintenant, il ne supporte pas l'hostilité contre Israël. Il faut bien connaître ça, que le sort le plus terrible, le plus redoutable, c'est celui de toutes les nations liguées contre Israël. Et ce n'est pas le sort d'Israël qui est redoutable, qui est inquiétant. C'est celui des nations. Balaam signifie, on est obligé de traduire la signification par une périphrase, celui qui dévore le peuple. Et puis les fils de Béor qui signifie flambeau, un flambeau qui met le feu, qui brûle. Voyez, déjà par leur nom, ces gens-là sont un peu désignés. Balak avait lui-même été victime de Sihon, son voisin, le roi des Amoréens. Et il voyait donc Sihon plus fort que lui. Or, Sihon vient d'être vaincu, comme je vous l'ai dit, par Israël. Alors, celui qui l'avait vaincu est lui-même vaincu par Israël, c'est-à-dire quelqu'un de plus fort que lui est vaincu par Israël, alors vous voyez, n'est-ce pas, qu'il ne se fait pas d'illusions, il sait bien qu'il va y passer lui aussi, à moins qu'il ne livre pas ça, mais ça il ne le veut pas non plus. Alors l'effroi est très grand, et il nous est dit que cette... que Moab fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. C'est une grande terreur, en effet, qui saisit le peuple moabite, car la puissance que montrait Israël était connue et elle avait nettement le caractère surnaturel. On savait que c'était un peuple qui transportait une puissance mais qui n'était pas seulement la sienne, mais une puissance surnaturelle. Et avec cela, le grand nombre, ils étaient nombreux, une véritable marée humaine. Et l'on savait que le peuple d'Israël portait aussi un objet particulier, c'est l'arche du témoignage, ça on le savait, et que cette arche signifiait la présence de son Dieu au milieu de lui. Au verset 4, Moab dit aux anciens de Madian, Madian était une petite nation voisine, et la plus ancienne d'ailleurs, voisine de Moab, à l'est, elle était à l'est de Moab. Et Madian s'était trouvé jusque-là assujetti à un tribut à Sihon, le roi des Amoréens, si bien que Madian n'existait jusque-là, n'existait guère plus en tant que peuple libre, mais depuis que Sihon est vaincu, là Sihon vient d'être tué lui-même et d'être vaincu par Israël, alors Madian a retrouvé sa liberté, et Moab le sait. Et Balak, le roi de Moab, trouve expédient de s'unir avec ce peuple voisin pour tenter de résister à la venue d'Israël. Le verset 5 nous dit une chose étonnante. Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, c'est dans le message envoyé à Balaam. Il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Il couvre la surface de la terre. C'est une manière, c'est bien la manière de s'exprimer en hébreu, où l'on saisit toujours, pour s'exprimer, la chose vue, telle qu'elle est vue. En effet, quand l'on voit une foule énorme dans une plaine, et ils étaient là dans une plaine, le peuple d'Israël progressait dans les plaines de Moab, les plaines qui avaient appartenu autrefois à Moab, et ils s'avançaient vers le territoire de Moab. Et alors là, quand on voit un peuple nombreux comme ça dans une plaine, au loin, il remplit tout l'horizon, ce qui fait dire, il remplit toute la terre. Nous voyons chapitre 26, verset 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. Et ça ne comprend que les hommes âgés de 20 ans et au-dessus. Alors, si l'on veut extrapoler, on arrivera à évaluer Israël, là, a au moins 2 millions de têtes. 2 millions. Alors, vous voyez un peuple de 2 millions, n'est-ce pas? De 2 millions dans une plaine, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Évidemment, ça remplit toute la terre. Ça paraît remplir tout l'horizon. Au verset 6. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Le message de Balak à Balaam est curieux. Là, nous voyons que Balak a vraiment foi en l'autorité et en la puissance surnaturelle dont Balaam peut disposer. Et ce qu'il dit là à Balaam, c'est à Dieu qu'il faudrait le dire. Je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. C'est vrai pour Dieu. Mais est-ce vrai pour Balaam? Eh bien, il a, comme bien des hommes, beaucoup plus de foi, une foi beaucoup plus certaine en un homme qu'en Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi donner foi à un homme et à son pouvoir, et puis refuser cette foi, cette même foi à Dieu? Eh bien, c'est la chose est constante, on la retrouvera dans l'humanité constamment. Cela est parce que Dieu est redouté. Et étant redouté, il n'est pas aimé. Je ne dis pas qu'il est craint seulement, il est redouté. Et il n'est pas aimé. Et ça, c'est ce que je vous dis, est net. Même dans des diverses religions, on s'aperçoit que Dieu n'est pas aimé. C'est une grande particularité du christianisme, et avant lui, de la foi israélite, que d'arriver à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été quelque chose de particulier, c'est quelque chose de particulier au peuple de la Bible. Il n'est pas aimé, et de plus, l'homme sait très bien qu'il peut manier un autre homme. Il a des moyens pour manier un autre homme, quand ce ne serait que celui de l'argent, celui des richesses, celui des honneurs, celui du pouvoir. Il peut manier un autre homme, il peut l'amener à ce qu'il veut, tandis que, du côté de Dieu, rien à faire, il faut se plier à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas toujours celle qui plaît. Ce n'est pas l'homme naturel, n'aime pas les voies de la volonté de Dieu, c'est parce qu'il lui convient. L'homme naturel vit ce qui est appelé dans le Nouveau Testament la vaine manière de vivre qu'avaient nos pères. Il vit un mode de vie qui ne peut pas être concilié avec la volonté de Dieu. Et par conséquent, ça ne marche pas. L'homme naturel, du côté de Dieu, il se sent jugé. Il se sent repris, il se sent appelé à autre chose que ce qu'il aime, et ça ne lui convient pas, évidemment. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Ayez une religion de complaisance, comme l'islam. Hein? L'islam qui fait des conversions maintenant, il y a je ne sais plus combien de conversions à Paris, de Français, de catholiques. Ça a été dit dans un article très documenté du Point, il y a quelques mois, un certain nombre de mois, se convertissent là-bas, à Paris, là, à la mosquée de Paris, la grande mosquée. Ils se convertissent, parce que c'est une religion excessivement facile, surtout qu'on sait très bien à Paris. Il y a des gens experts, là. On sait très bien, il y a un ambassadeur arabe, là, qui... de premier ordre, et on s'est très bien évidemment présenté les avantages, tous les avantages de l'islam. Ainsi donc, l'homme naturel, lui, n'aime pas la volonté de Dieu, parce que cette volonté ne cadre pas avec les désirs du cœur humain, ça ne cadre pas du tout. Alors, c'est pourquoi l'homme préférera mettre sa foi ailleurs qu'en Dieu. Balak voulait s'assurer la victoire sur Israël par l'effet préalable de la malédiction de Balaam, qui eût fait perdre à Israël sa force naturelle. Tout au moins, c'est ce qu'il croit, il le croit ferme. S'il est maudit, il sera maudit. C'est ce qu'il dit d'ailleurs ici, peut-être... Ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Si tu le maudis, alors là, je vais pouvoir le battre. Au verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Des présents pour appâter le devin. Et nous voyons là simplement dans le verset 7 la présentation de la demande de Balak. Et puis au verset 8, c'est la réponse de Balaam. Qui demande à consulter l'Éternel, il lui faut une nuit pour cela. Il retient donc la délégation moabite et il va consulter l'Éternel. Voilà un premier fait qui nous alerte, car il dénote la perversion de Balaam. Balaam accepte déjà les présents. Et des présents venant d'un roi, ce ne devait pas être... quelque chose de bien peu de valeur. Hein. Ce sont certainement de beaux présents. Ce sont des princes, d'ailleurs, qui lui sont envoyés, avons-nous lu, les princes de Moab, et par conséquent, les présents sont vraiment intéressants. Alors, il les prend, n'est-ce pas? Voilà un premier fait. Cependant que, puisqu'il connaît l'Éternel, il devrait connaître certaines autres choses. En tout cas, il les a certainement dans son cœur, mais il les comprime. Il ne veut pas que son cœur lui parle selon Dieu. Selon Dieu, voilà en effet ce que le peuple d'Israël sait au chapitre 10 du Deutéronome, verset 17, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Bon, d'abord, Dieu n'en veut pas, lui, de présent, sous une forme ou sous une autre. Il n'en veut pas. du côté de Dieu, c'est la gratuité. Et il faudra que ceux qui servent Dieu observent également cela, soient comme Dieu et n'acceptent pas les présents, étant entendu qu'il s'agit là essentiellement des présents qui vont faire pression, naturellement. Présents qui vont faire pression. Au chapitre 16 et au verset 19, « Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et puis au chapitre 27 du Deutéronome, verset 25, « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. » Maudit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang, et c'est bien ce qui allait se produire si Balaam venait maudire, et s'il pouvait le faire, maudire le peuple d'Israël, il était censé provoquer la défaite d'Israël et par conséquent de répandre le sang innocent. Puisque Israël était innocent, il faisait des marches sous la conduite de Moïse, lui-même dirigé par Dieu. Alors, un vrai prophète, lui, n'aurait pas accepté les présents. Ainsi, nous notons déjà dans les traits de caractère de Balaam, qu'il était cupide et accessible par ce très mauvais côté, une sensibilité au présent. Ça, évidemment, ça n'est jamais, ça ne peut jamais être le fait d'un homme droit. Et bien plus, il n'a pas honte de compromettre le nom de l'Éternel dans le marché qui s'amorce, car il sait très bien que c'est un marché et que les premiers présents ne sont que l'annonce, l'amorce des autres présents qui viendront lorsqu'il aura satisfait à la demande du roi. Il sait très bien qu'il y en aura d'autres. Il aime les richesses et son calcul à lui est de s'en emparer d'une manière religieuse. Mes amis, combien on a eu ça dans le christianisme. S'emparer de l'argent par cupidité. Vous savez combien la cupidité est dénoncée dans le Nouveau Testament. La cupidité qui est une idolâtrie. Eh bien, il y a des gens qui satisfont leur cupidité d'une manière religieuse. Ça s'est trouvé dans tous les siècles. Je m'abstiendrai de vous donner des détails, mais vous savez, ce serait facile à faire. Et aujourd'hui, est-ce que ça a cessé? Non pas! Est-ce que nos milieux évangéliques, largement entendus, en sont exempts? Non pas! Car moi, je dénonce avec force ceux qui demandent de l'argent, qui ne commencent par demander de l'argent pour entreprendre, soi-disant, l'évangélisation. Sans argent, ils ne peuvent rien faire, ces gens-là. Eh bien, moi, je les dénonce. Ce ne sont pas des gens droits devant le Seigneur. Envoyez des papiers tout de suite avec CCP, n'est-ce pas? Priez pour nous, oui, nous avons besoin de vos prières. Puis nous avons aussi besoin, hein? Alors le CCP, il est gros là, il est en évidence, on le voit, n'est-ce pas? Nous avons besoin aussi de ça, beaucoup d'argent, parce que nous envisageons d'acheter ceci, de construire cela, etc., etc., n'est-ce pas? Nous avons un tas de projets, c'est facile de faire des projets, de les avoir. Alors donnez-nous vite votre argent, n'est-ce pas? Et avec ça, nous allons convertir la terre. Alors qu'ils ne font rien du tout, ils ne font pas avancer l'œuvre de Dieu et ne pourront jamais la faire avancer d'une façon vénale. Vous avez reçu gratuitement, dira le Seigneur. Donnez gratuitement. Et dans les commencements de la Pentecôte particulièrement, on était très à cheval là-dessus. J'espère qu'on est resté, bien sûr, dans cette pensée. Mais on était très à cheval là-dessus. Et même, voyez-vous, une offrande qui était donnée à porter à l'Église par quelqu'un qui n'était pas membre de l'Église n'était pas mélangée avec les offrandes de l'Église. Elles n'étaient pas mélangées. S'il y avait des offrandes venant de quelqu'un, elles servaient à soulager des misères, n'est-ce pas? Elles servaient à faire du bien, c'est tout, n'est-ce pas? Mais elles n'étaient pas mélangées. Mais il y a aujourd'hui des gens qui ont l'audace de ne rien faire qu'avec de l'argent et commencer par demander de l'argent. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui vient de Balaam. Il aime donc les richesses et il veut se les approprier religieusement, par le canal religieux. Quel misérable est cet homme, quel misérable, et combien sont misérables tous ceux qui agissent de même. Il ne sert pas Dieu, il se sert de Dieu. Voilà toute la différence, il se sert de Dieu. Et quand je vois des papiers comme ça, moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais ils se hérissent quand même, n'est-ce pas? Et c'est une chose qui me fait horreur. Nous arrivons au verset 9. De verset 9 à 12, alors ces versets vont nous amener à une réflexion assez profonde, parce que vous savez, dans la Bible, tout est matière à réflexion. Il y a des leçons qui sont là, logées dans la lettre, logées dans le texte inspiré. Et ces leçons, il faut les recueillir au passage, n'est-ce pas? Quand vous allez vers un arbre qui est très feuillu et qui a des fruits, il faut pousser les feuilles, regarder, pour aller chercher les fruits. Le Seigneur Jésus l'a fait un jour dans un certain figuier, il avait beaucoup de feuilles, et puis il a écarté les feuilles pour trouver les fruits, il n'y en avait pas. Il a maudit le figuier. Eh bien, nous devons, dans la Bible, faire de même et... au-delà de la lettre, au-delà de l'histoire, découvrir le fond des choses, c'est-à-dire les leçons spirituelles qui y sont. Alors, c'est ce que nous allons faire dans ces quatre versets. Dieu vint à Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Bien sûr, Dieu sait très bien, mais comme nous le voyons dans d'autres passages, Dieu veut le lui faire dire. À Adam, c'est la même chose, n'est-ce pas? Adam, Dieu va le questionner. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dit tu n'en mangeras pas? Dieu sait très bien qu'il en a mangé, mais c'est pour le lui faire dire. Alors ça, n'est-ce pas? N'oubliez pas la leçon non plus de ça au passage. Dieu veut nous faire dire ce que nous avons fait de mal, contrairement à sa volonté. Contrairement à sa parole. Dieu veut nous le faire dire, cela. Et puis, au verset 10, Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Nous pouvons avoir un certain étonnement en lisant « Dieu vint à Balaam ». Dieu consent à venir s'entretenir avec cet homme pervers qui n'appartient pas au peuple élu et qui envisage de maudire ce dernier pour un bon salaire, qu'il n'appartienne pas au peuple élu. Dieu peut... parler à d'autres hommes, oui, c'est vrai, mais c'est un homme pervers, n'est-ce pas, qui médite une chose grave. Alors, pourquoi Dieu intervient-il si clairement? On serait bien content, nous, que toujours d'entendre clairement l'Éternel, le Seigneur, nous parler comme cela, n'est-ce pas? Eh bien, ça, si vous voulez que l'Éternel vous parle, vous n'avez qu'à faire ce qu'il faut pour cela. Bon, mais enfin, là, n'est-ce pas, c'est un peu étonnant. Alors, pourquoi Dieu vient-il lui parler? Eh bien, deux choses. Nous allons d'abord noter que, avant le temps de l'Église, l'Éternel Dieu consentait à parler avec Satan lui-même, ou tout auxiliaire, mettons, de Satan, avec Satan, qui est le maître du monde de la terre. Je vous rappelle les débuts de Job, Satan vint aussi devant l'Éternel au milieu des fils de Dieu, et l'Éternel lui parla, « D'où viens-tu, Satan ? Je viens de me promener sur la terre. » Il se promène sur la terre. Nous avons aussi un autre exemple, l'Éternel s'adressant encore directement à Satan, dans le chapitre 3 du prophète Zacharie, au sujet du souverain sacrificateur Josué. Satan, qui est dans sa mission d'accusateur, le calomniateur, l'accusateur, mais quelquefois il accuse à juste titre, malheureusement. Alors, l'accusateur, n'est-ce pas? Et il accuse Josué, le souverain sacrificateur, dont effectivement les habits sont sales. L'Éternel va ordonner qu'on lui mette des habits purs, un turban pur. Bien sûr, tout homme comparaissant devant la sainteté de Dieu apparaît ainsi. Eh bien, là, pour l'écarter, l'Éternel, et c'est le Seigneur Jésus, qui n'était alors que la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui était alors la parole de Dieu, c'est donc, si vous voulez, Jésus, pour le nommer comme nous le connaissons, nous, qui dit cela, Satan, que l'Éternel te réprime. Je rappellerai aussi que Jésus-Christ se trouvera, lors de la tentation dans le désert, face à face avec Satan, et l'entendra, puis lui répondra. Cela se passe avant le temps de l'Église. Nous ne voyons plus rien après le temps de l'Église, après la Pentecôte. Rien de cet ordre. Deuxième observation à faire, et celle-là sera plus longue, il s'agit du peuple de Dieu, que Balaam a dessein d'aller maudire sur l'invitation de Balak parce qu'il est friand des richesses. Il s'agit du peuple de Dieu, un peuple que Dieu prépare en vue non seulement de son salut à lui, mais du salut du monde. C'est un instrument, un serviteur que Dieu s'est donné, comme je vous l'ai montré, et par conséquent, Dieu tient à ce peuple, qui est le peuple qu'il a élu. Si bien que Dieu vient s'interposer là lui-même, devant l'instrument dont Satan voudrait se servir. Il vient s'interposer lui-même devant Balaam. Dieu répond aux accusations de l'ennemi contre ses élus, ceux qu'il veut choisir pour les conduire à sa gloire, en les purifiant. Voilà ce que nous allons devoir méditer un peu spécialement. Dieu donc les voit comme ses élus, les chérit, il les a désignés, ils lui appartiennent, ils sont à lui, de même dans l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas, ils sont à lui, et alors Dieu entend lui repousser l'accusation de l'ennemi qui est l'accusateur et les purifier. Nous allons voir, par exemple, Jean, dans l'Évangile selon Jean. Jean, au chapitre 13, verset 10. Nous sommes dans la scène du lavage des pieds par le Seigneur Jésus, qui lave les pieds à ses disciples. Chapitre 13, verset 10. Jésus lui dit, répondant à Simon-Pierre, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. » Les pieds, parce que c'est la marche qui salit les pieds. « N'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. Vous êtes purs. » Et puis, dans le chapitre 15 aussi, au début du chapitre 15, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Déjà vous êtes purs. » Nous avons des passages dans l'Ancien Testament qui nous montrent déjà cela, tellement l'harmonie entre les deux alliances, les deux testaments, est grande. Ainsi, Dieu purifie ses enfants. Cela ne doit pas, bien sûr, nous inciter à négliger notre sanctification. Mais c'est quelque chose que dans le cours du christianisme, on a soit perdu de vue, soit alors complètement inversé. Et il ne faudrait pas que nous, parce que je vois bien qu'au milieu de nous, il y a encore cette inversion fatale de la pensée de Dieu. Alors nous ne sommes plus sur la pensée de Dieu. D'abord, je dirais une première chose, n'est-ce pas, que ceux qui ont toujours la phobie de Satan, ah, pour eux, Satan, les puissances mauvaises sont toujours là, mais assez de parler des puissances mauvaises, vous les glorifiez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des livres, des petits livres notamment que j'ai en main, que j'ai dans ma bibliothèque et que je considère comme très mauvais. Il y a par exemple la guerre au sein de cette femme qui pourtant écrit d'autres choses, n'était pas mal, n'est pas mauvaise, mais la guerre au sein est quelque chose qui ne va pas du tout. Le chrétien, d'après certains écrits, se verrait toujours harcelé par des démons. Il sera entouré de démons. Il y en a devant, il y en a derrière. Il ne peut pas faire un pas sans avoir à redouter l'action d'un démon. Mais c'est faux, tout ça. S'il vous plaît. C'est faux. Vous, comment voulez-vous mener une vie chrétienne comme ça, toujours? Je vois des gens constamment apeurés, constamment. Dieu, Jésus a donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur les serpents, sur les scorpions. Bien sûr. Il ne faut pas vivre n'importe comment. Il faut vivre en enfant de Dieu. Et si vous relisez Éphésiens 6, vous verrez que si vous prenez les armes de Dieu, les ruses de Satan ne pourront pas vous atteindre. Et puis, il est dit dans un autre texte qu'il s'enfuira loin de vous. Satan s'enfuira. Tenez-vous comme il faut, et puis vous avez la protection de Dieu sur vous. Vous avez, le Seigneur Jésus est là, il ne laisse pas approcher. Vous voyez bien qu'il n'a pas laissé approcher de son peuple les puissances mauvaises. Il s'est même interposé devant Balaam, et nous le verrons, il va arrêter Balaam. Et quand Balaam, malgré tout, ira, eh bien il va lui donner des paroles de bénédiction. Alors, ce qu'il a fait pour le peuple élu d'autrefois, il ne le fait plus pour l'Église, alors que Jésus-Christ est venu, enfin tout de même. Alors assez de ces puissances mauvaises, hein, je ne veux plus en entendre parler. Ce n'est pas tout. Il y a un grave mécompte. Et ce mécompte, cette erreur, consiste à ceci. C'est que, évidemment, il faut que nous nous jugions nous-mêmes. Ça nous est dit dans la parole, et c'est nécessaire, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans toutes les manifestations de la foi, bien sûr. Alors, il faut se juger, il faut s'examiner, oh, mais ça, bien sûr. Ça, bien sûr, c'est certain qu'il faut s'examiner sans faiblesse, à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu, par la prière, demander au Seigneur qu'il sonde nos cœurs et nos reins pour nous montrer dans quel état nous sommes. Il faut connaître son état intérieur. Bien sûr, il faut pleurer s'il faut, si c'est nécessaire, sur cette propension quelquefois au péché, comme il est dit, n'est-ce pas, vous n'avez pas lutté contre le péché qui pourtant vous serre de près, là, et c'est, c'est pas les puissances mauvaises, c'est le péché, c'est la convoitise, c'est le... cette faiblesse à l'intérieur de l'homme, cette nature première de l'homme qui est constamment excitée, non pas par des puissances mauvaises immédiates, mais tout simplement par la convoitise. La Bible nous montre que la tentation, la convoitise, c'est ça qui fait chuter l'homme. C'est toujours là, toujours prêt. Il y a un accueil, malheureusement, dedans. Alors, nous savons très bien que le chrétien présente encore bien des faiblesses. Nous savons bien qu'il n'est pas parfait et qu'il a encore bien des imperfections. Nous savons qu'il a besoin de recourir au pied de la croix au sang de Jésus pour être purifié, s'étant repenti, venant se repentir, reconnaître sa faiblesse et son péché. Oui, nous le savons tout ça et c'est vrai. Et c'est vrai, il n'y a rien à supprimer à ça. Mais, alors, c'est là où ça ne va pas. C'est que bien des chrétiens se disent, je suis faible, je n'arrive pas à faire vraiment ce que je voudrais, comme Paul le dit dans Romains 7, la puissance du péché est là, ce péché, ce mal, cette racine du mal, il est là, et je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais au contraire le mal que je voudrais pas faire. Bon, alors, bien des chrétiens, sachant cela, voyant cela, n'est-ce pas, regardent par conséquent leur état, ils font bien de regarder, de le déplorer et de le porter devant le Seigneur, mais alors, n'est-ce pas, ça les amène à douter de leur salut, ça les amène à douter, sinon de leur salut, tout au moins de leur position vis-à-vis de Dieu, ils savent plus très bien s'ils sont vraiment encore chrétiens, s'ils sont enfants de Dieu, ça les amène à ça. Et pour eux, leur position d'enfant de Dieu est tout simplement la traduction de leur état. Si leur état intérieur est mauvais, s'ils ont failli, vraiment, s'ils se sentent faibles, alors ils automatiquement, dans leur pensée, dans leur cœur, ils ne sont plus beaucoup enfants de Dieu. S'ils le sont encore un petit peu, ils le sont beaucoup moins, etc. Ça, c'est faux. Il y a une différence à faire, essentielle, entre l'état de la vie et de l'âme, enfin, l'état, et la position que Dieu de par sa volonté nous a donné. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si la foi se maintient, ça il faut que la foi se maintienne, eh bien la position de Dieu à notre égard ne varie pas. Elle ne varie pas. Enfants de Dieu, nous le sommes. Et nous le sommes par la volonté de Dieu et non pas en raison d'un état fluctuant tantôt un peu meilleur, tantôt au contraire bas, n'est-ce pas? Alors, si cet état est bas, nous sommes presque plus enfants de Dieu. Ça n'est pas vrai. Il y a une différence à faire entre l'état de l'âme, qui est variable, malheureusement. Il devrait toujours être bon, excellent, de mieux en mieux, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi, n'est-ce pas? Malheureusement, et différence à faire entre l'état, donc, de sa conscience, l'état de l'âme, et la position d'enfant de Dieu que Dieu nous donne. Enfin, Dieu a supporté, c'est dit, à travers les siècles, un peuple qui a fait des choses épouvantables, abominables, et ce peuple, il le considère toujours comme le peuple élu. Aujourd'hui, il est encore le peuple élu de Dieu. Et il est toujours le peuple élu. Rappelons-nous ce que Ésaïe dit. Une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Eh bien, quand bien même il se trouverait quelque femme qui abandonnerait l'enfant qu'elle allait, moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est la foi qu'il doit maintenir. Et la foi en cette position de Dieu que Dieu donne. Enfants de Dieu, nous le sommes. Et alors, c'est ça qu'il faut s'évertuer par la foi, n'est-ce pas, à laisser bien net, bien réel, bien vivant. Enfants de Dieu, nous le sommes. Digne de ça, non, je ne le suis pas. Mais enfant de Dieu, je le suis de par la volonté de Dieu. C'est une volonté qui se maintient, une volonté supérieure à laquelle je n'ai pas à apporter de correction. Et alors, s'il ne faut jamais douter de cette position en Christ, et cela douter en raison de l'état d'imperfection qui est le nôtre, plus ou moins grave, mais enfin, qui est souvent le nôtre, il ne faut pas abaisser notre position parce que nous nous voyons indignes d'elle. Alors là, n'est-ce pas, c'est l'effondrement de la vie chrétienne, c'est fini. C'est la foi qui lâche, qui abandonne la position, qui abandonne ce que Dieu a donné. La foi, au lieu de tenir, elle reprend en somme ses mains, et puis elle se courbe. Alors là, c'est là que l'ennemi est content. C'est là qu'il est satisfait de voir ça, n'est-ce pas? Au lieu de tenir la position que Dieu, au lieu de dire, mais je tiens, je m'agrippe, rappelons-nous la lutte de Jacob qui, avec l'ange de l'Éternel, il le tient, il ne veut pas lâcher, je ne t'abandonnerai pas que tu ne m'aies béni. Alors c'est ça, la position, c'est là notre salut, c'est en elle qu'est notre salut. Ce n'est pas dans notre état maintenant, c'est en elle. Alors, évidemment, à l'encontre de ce que je viens de dire, on peut prétendre que, alors, c'est ouvrir la porte à la facilité. Et que, du fait que nous n'avons pas à nous fonder sur notre état de faiblesse, nous le déplorons, nous le portons devant le Seigneur, mais nous n'avons pas à nous fonder sur cet état de faiblesse pour, en ce qui concerne notre position chrétienne, position d'enfant de Dieu. Bon, alors, par conséquent, laissons les choses aller, allons nous repentir, nous confesser chaque fois que c'est nécessaire, et puis, ma foi, laissons les choses courir. Alors là, ce serait manquer tout simplement de foi, et par conséquent, celui qui manque de foi, évidemment, là, c'est celui qui peut amener Dieu, un jour ou l'autre, à supprimer la position. Et si Dieu supprime la position, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de découvrir dans cette position qui est un décret de Dieu, une volonté expresse de Dieu, d'y trouver la raison d'un laisser-aller, d'une négligence quant à notre salut, que personne ne néglige le grand salut qu'il a reçu de Dieu. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais il faut au contraire prendre raison de notre position en Dieu par Christ pour lutter, pour se redresser par la foi et pour dire « J'irai me repentir devant le Seigneur, qu'il lui me sanctifie, il me sanctifie, mais je ne cesse pas de lui appartenir, je suis dans sa main, il me sanctifie. » Et c'est cela qu'il faut faire, partir de cette position, ne pas la faire varier, la conserver par la foi entière, et puis, dans tous les moments de faiblesse, toutes les occasions de faiblesse et de chute, aller à la croix, c'est là notre endroit. Le monde n'y est pas là, il n'y a pas de monde là, au pied de la croix, parce que s'il y a du monde qui vient au pied de la croix, il se convertit. Alors, aller au pied de la croix, et puis se repentir et demander au Seigneur, parce que la repentance, nous en avons besoin dans toute la vie chrétienne. Alors, nous avons un avocat dans le ciel, le Seigneur Jésus. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous et qui nous veut, bien sûr, en raison de la position qui nous a été donnée. Nous avons été faits enfants de Dieu, non pas par la volonté de la chair et du sang, mais par la volonté de Dieu, et nous sommes nés de Dieu. Et alors là, n'est-ce pas, le Seigneur plaide, et l'Esprit vient nous sanctifier, esprit, âme et corps. La sanctification coule, descend du ciel, vient. Voilà la marche chrétienne, voilà comment il faut savoir marcher. Mais alors, n'est-ce pas, tous ceux qui sont là constamment à gémir, « Ah, oh, je ne sais même plus si je suis sauvé », il y en a des gens qui me l'ont dit, « Je ne sais plus, je ne sais plus ce que je suis, je ne sais plus, n'est-ce pas, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela », bon, c'est très bien de le dire, va le dire au Seigneur, va te confesser au Seigneur, mais ne doute pas qu'il ait fait de toi un enfant de Dieu, parce que si tu doutes, alors c'est toi-même qui te détruis. Il faut partir de cette position. C'est notre point fort, c'est notre point d'ancrage, ça. Notre point d'ancrage. Les enfants d'Israël sont tous des élus de Dieu. Ils font pique-pendre. Eh bien, ils restent des élus de Dieu. Dieu va se charger de les punir, de les châtier, de les relever. Dieu va s'en charger. Mais il ne veut pas que quelqu'un s'en charge à sa place. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et il ne veut pas que Satan les juge. Il veut, lui, les sanctifier. Il veut, lui, leur donner les épreuves dont ils ont besoin. Voilà ce que Dieu veut faire. Ainsi, déjà, nous avons dans ce, voyez, dans ce commencement de notre récit de Balaam, nous avons déjà une leçon essentielle. Vous voyez, chers amis, il y en a qui, ils lisent leur Bible, je ne sais pas comment ils font, moi, ils tournent les pages et puis ils disent, aujourd'hui j'ai lu 4 chapitres. Formidable. J'ai lu 4 chapitres aujourd'hui. Vous vous rendez compte de l'Ancien Testament. Puis, il y avait toute une liste de noms, j'ai rien compris, mais ça fait rien, je l'ai lu. J'ai fait quelque chose, n'est-ce pas? Mais les leçons, mon pauvre ami, qui sont là, qui t'attendent, et qui sont pour toi dans tous les textes de la Bible. Voyez, Dieu intervient là, n'est-ce pas? Dieu vint à Balaam et lui dit, « Ah, mon ami, attention, qu'est-ce que tu fais là avec ces gens-là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vas me faire plaisir de rester là. Reste chez toi et tu ne maudiras point ce peuple. Car, sache une chose, il le savait déjà, mais Dieu lui répète, ce peuple est béni. Il est béni de moi. Voilà, il est béni, il est mon peuple, tu n'y toucheras pas. » Alors, on va voir par la suite ce que Balaam va faire, évidemment, n'est-ce pas? On va voir ce qu'il va faire, parce que la puissance de l'argent sur lui est forte, est grande. Ainsi déjà, leçon essentielle, par l'histoire de Balaam qui s'apprête à maudire le peuple de Dieu, nous voyons Dieu se dresser contre lui et interposer son veto. Non, il n'ira pas, car il ne veut pas que l'on touche assez ouin. Et c'est pourquoi dans mon titre j'ai mis Balaam et les ouins de Dieu. Il ne veut pas qu'on touche assez ouin. Celui qui est enfant de Dieu, qui est dans l'Église maintenant, a reçu une onction. L'onction, c'est pas seulement l'un ou l'autre. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Tout membre de l'Église a reçu une onction. Il a reçu les arts de l'Esprit, autrement il n'appartiendrait pas au Seigneur. Alors, il est loin de Dieu, et Dieu ne veut pas qu'on touche à ses oints. Il ne veut pas qu'on touche, il s'interpose. Alors, conserve donc en lui, que Balaam veut conserver en lui le désir de ne pas mettre radicalement fin aux intentions de Balak. Ça va le perdre, il conserve en lui cela, il va vouloir continuer par conséquent et lutter contre Dieu, et Dieu va un peu lutter comme en reculant, si vous voulez, mais ça, c'est pour nous, c'est pour notre instruction que ces choses sont ainsi. Si Dieu avait voulu, là, Balaam, il n'allait pas loin, hein. Il serait resté couché sur son lit, là, et il n'aurait plus bougé, Dieu aurait pu le clouer. Mais il le laisse faire, pourquoi? Mais c'est pour que nous en recevions instruction, mes amis, que tout cela nous parvienne. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes à la fin des temps. Alors, chers amis, retenez ces leçons, elles sont nécessaires, indispensables à notre vie chrétienne. Amen.